Très bien, nous allons recommencer la séance cet après-midi et je vais devoir gérer le temps comme modératrice, donc je vais être un peu stricte et je m'en excuse auprès des orateurs à certains moments pour garder quand même le temps et respecter ce temps par rapport à la fin de notre journée. Et tout de suite, pour ne pas justement envahir l'espace et, ni le temps, je vais laisser la parole à notre collègue qui va nous donner un petit peu une représentation du travail qui est fait en Suisse, et il s'agit de Madame Marie-Josée Zuffray, prononce correctement, qui est éducatrice sociale. Donc merci et nous vous écoutons.
Alors bonjour, donc déjà j'ai été très touchée par les témoignages de ce matin, et en commençant cette présentation, je voulais vous dire que parler de la sexualité et de l'affectivité d'une autre personne, que ce soit une personne cérébralisée ou pas, c'est toujours être amené à notre propre histoire. On est toujours amené à notre vécu, nos systèmes de valeurs, de pensée, et il faut être attentif à ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'en distancer pour être vraiment à l'écoute de l'autre. On a parlé aussi beaucoup d'écoute ce matin, et pour offrir une réelle écoute, il faut aussi être attentif à ne pas mélanger ce qui m'appartient avec ce qui appartient à l'autre. Donc ça, c'est un fil rouge dans toute ma présentation et je crois dans le travail qu'on fait au niveau du foyer. Alors, il y aura deux parties dans ma présentation. Donc la première partie concerne la santé sexuelle, la sexualité et handicap. Ces deux thématiques en Suisse, je vais faire un état des lieux. Elles sont vraiment prises en compte par des institutions vraiment qui défendent les droits sexuels de toute la population, personne cérébralisée ou pas, ou autre handicap. Il y aura une deuxième partie qui va, elle, je vais vous présenter un exemple institutionnel, parce qu'il y a un nouveau foyer qui s'est ouvert en Valais où je travaille, donc qui accueille des personnes cérébro-lésées depuis bientôt 4 ans et demi maintenant. Donc je vais vous parler un petit peu de notre expérience et du travail qu'on fait dans le domaine de l'affectivité et de la sexualité. Je vais passer très vite cette diapositive parce qu'on m'a dit qu'il y avait peu de temps. Juste pour dire que la Suisse a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2014. Ensuite, il y a des organisations en Suisse vraiment qui prennent en compte la défense des droits sexuels. Alors, ça s'appelle Santé sexuelle Suisse. Santé sexuelle Suisse a deux missions. Une première mission qui est la promotion et le respect des droits sexuels sur la scène nationale, sur la scène internationale. Les droits sexuels pour toute personne, donc. Elles font du lobbying aussi au niveau politique. Elles sont très engagées au niveau suisse. Santé sexuelle Suisse est dirigée donc par un conseil de fondation, donc on appelle Fondation Santé sexuelle Suisse, qui vraiment a le souci, et ça c'est très important, il y a beaucoup de textes qui ont été écrits aussi. Elle s'engage pour que les personnes en situation de handicap bénéficient des droits sexuels au même titre que toute autre personne. À part Fondation Santé sexuelle Suisse, il y a l'Association Santé sexuelle Suisse. Et cette association, c'est un regroupement de centres de conseil ou d'experts et de professionnels qui œuvrent dans le domaine de la santé sexuelle suisse et qui aussi œuvrent pour les personnes en situation de handicap. Si on se rapproche de la population, ensuite, dans chaque canton, nous on a 26 cantons en Suisse, dans chaque canton, il y a des centres de consultation en santé sexuelle où il y a des professionnels qui travaillent, qui sont reconnus au niveau politique, qui ont des mandats dans le domaine de la planification familiale, dans le domaine du conseil conjugal, de l'éducation sexuelle et de la grossesse. Et dans ces centres, il y a des professionnels qui sont formés spécifiquement aussi sur la thématique de la sexualité et du handicap et qui sont des ressources très importantes pour les institutions, pour les personnes en situation de handicap et puis pour les familles aussi. Ces centres offrent des entretiens gratuits et confidentiels. Et nous, au niveau de la Fondation Valais de Cœur, on collabore étroitement avec eux. Moi-même, j'ai travaillé 20 ans dans ces centres avant de rejoindre la Fondation Valais de Cœur. Il y a une autre association, peut-être, dont vous avez entendu parler, qui est importante, c'est le CEP. CEP, c'est Sexualité et Handicap Pluriel. C'est une association, vraiment, qui travaille, qui fait de l'information et de l'accompagnement pour les situations les personnes en situation de handicap. J'en reparlerai plus tard par rapport aux assistants sexuels. Nous avons en Suisse une association qui est spécifiquement destinée aux personnes cérébro-lésées. C'est l'association Fragile Suisse. Là aussi, il y a des antennes cantonales, il y a 11 antennes cantonales qui offrent donc aux personnes cérébro-lésées, mais aussi à leur entourage, des conseils. Il y a une helpline, il y a des accompagnements à domicile et des groupes de parole. Des groupes de parole pour personnes cérébro-lésées, mais aussi des groupes de parole pour les familles. Et les familles souvent disent l'importance de savoir, de pouvoir en parler, de pouvoir parler de ce qu'elles vivent avec des personnes aussi qui comprennent leur vécu. Elles organisent aussi des loisirs. Alors, on a parlé ce matin de la formation d'assistants sexuels, donc je ne vais pas tout reprendre, juste pour dire qu'en Suisse, parce qu'on a aussi parlé des femmes, est-ce que les femmes faisaient appel ou avaient pouvaient obtenir les services d'assistants sexuels hommes? Alors c'est vrai qu'en Suisse, il y a, dans la Suisse romande, il y a deux formations qui sont arrivées à terme. Donc la première en 2009, où 10 assistants sexuels ont été certifiés. Il y avait 6 hommes et 4 femmes qui ont fait la formation. La formation d'assistants sexuels, c'est 300 heures de formation avec un diplôme à la fin. Cette formation en Suisse romande, elle a été justement mise en place et elle est suivie par le CEP, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'association. C'est vraiment, ils se sont beaucoup mobilisés pour cette formation. En 2015, il y a une nouvelle volée qui est sortie et qui a été certifiée. Donc, il y a eu 7 assistants sexuels diplômés. Et là, on a 2 hommes et 5 femmes. Alors, ces personnes sont dans des cantons différents et se déplacent. Comme on l'a dit, en Suisse, la prostitution est légale. Donc, elle dépend du code pénal. Donc, les assistants sexuels, ils sont soumis aux mêmes règles que les prostituées. Donc, ils ont un statut d'indépendant, mais elles sont affiliées, les assistants sexuels sont affiliés et ont un partenariat avec le CEP. Donc, il y a toujours un lien étroit avec les gens qui ont donné la formation. Elles offrent des formations, ils et elles offrent des formations, des prestations qui peuvent durer d'une heure à une heure et demie. Elles ont un coût qui est de 150 francs l'intervention, plus les déplacements. Avant, on avait parlé de l'aspect du coût par rapport au cadre légal, mais à la base, le CEP, la question financière s'est posée aussi pour mettre une distance, parce que le fait de payer quelqu'un, on n'est pas dans une relation amoureuse ou affective, ce qui peut très vite arriver, hein, si on fait appel à un ou une assistante sexuelle, d'investir la personne de manière relationnelle beaucoup plus importante et affective. Donc le fait de payer la prestation permet aussi cette distance. C'était un petit complément peut-être par rapport à tout à l'heure. Donc là, j'ai fait vraiment un bref parcours de ce qui se passe en Suisse. Je vais vous présenter donc la Fondation Foyer Valet de Cœur dans laquelle je travaille. La Fondation Valet de Cœur, elle regroupe 3 foyers. Il y a 2 foyers qui sont plus anciens. Ces foyers accueillent des personnes en situation de handicap, soit de naissance, soit acquis. Ça peut être une maladie ou aussi elles ont accueilli des personnes cérébro-lésées. Et on a constaté au bout d'un certain temps qu'il y avait un manque justement de structures spécifiques pour les personnes cérébro-lésées. Et donc la Fondation a ouvert un 3e foyer en février 2011 qui lui accueille spécifiquement des personnes cérébro-lésées. Ce foyer là, vous le voyez en photo aussi, donc il a une capacité d'accueil de 26 résidents. Dans le cadre des 3 foyers, la Fondation elle a 60 places d'hébergement et en hébergement et en atelier. Donc là, c'est 26 résidents qui peuvent être accueillis au sein du foyer Valet de Cœur. Chaque résident a 3 référents. Donc il y a 3 secteurs de prise en charge qui sont importants, c'est les soins. Donc le résident, nous on les appelle résidents, auront donc un référent au niveau des soins. Un référent aussi au niveau de l'accompagnement, donc il y a un secteur accompagnement socio-éducatif. Et puis un accompagnement aussi au niveau des ateliers. Donc elle aura aussi un référent au niveau des ateliers. Dans le cadre du foyer, il y a des ateliers d'occupation où la personne peut réapprendre des gestes aussi pratiques et concrets. Pour certains résidents, le foyer Valet de Cœur, c'est un lieu de vie à long terme. On accueille quand même des personnes qui ont des handicaps assez lourds avec des lésions assez importantes, mais aussi d'autres résidents qui, eux, ont un projet de retour à domicile. Alors pour certains, c'est vraiment le lieu de vie, et pour d'autres, ce sera une transition avant de pouvoir construire leur projet de vie à domicile. Dans le cas du foyer, bien sûr, il y a les espaces communautaires. Chaque résident a sa chambre et ses sanitaires. Ça, c'est son espace vraiment privé qui lui appartient. Lors d'un retour à domicile, on a aussi maintenant la possibilité de les accompagner, de faire un suivi à domicile. Comme le lien a été créé, s'il reste pas trop loin, donc on peut aussi faire un accompagnement à domicile. La philosophie du foyer Valet de Cœur aussi, c'est vraiment de prendre soin aussi des familles, enfin de travailler vraiment en partenariat avec le résident, mais aussi avec les familles, de leur offrir des espaces aussi, tout en respectant l'intimité du résident. Ça, c'est aussi très important, mais on les intègre vraiment dans la prise en charge au niveau du foyer. Et c'est souvent très, très riche. Pour vous parler un petit peu de notre projet, parce que ça fait que 4 ans et demi qu'on est ouvert, c'est déjà beaucoup, mais enfin, on est en pleine créativité. C'est ce qui est passionnant quand il y a une structure qui s'ouvre. C'est vraiment de vous parler un petit peu d'où on en est par rapport à toutes ces questions sur la sexualité et sur l'affectivité dans le cadre du foyer. Pour ça, je vais vous présenter une situation. Alors, je n'ai pas choisi une femme, parce qu'on parlait beaucoup des femmes tout à l'heure, mais on a le souci vraiment de donner un espace aux femmes aussi. Mais c'est vrai que les femmes, souvent, sont plus discrètes ou elles ont moins l'habitude aussi d'être demandeuses. Et comme parfois aussi la personne cérébralisée, comme d'autres personnes, expriment leurs besoins par des comportements, c'est plus discret souvent. Mais on ne les oublie pas. Mais là, vraiment, je vais vous parler de Monsieur X, que je vais appeler Xavier, qui est un résident, je crois, qui nous a beaucoup aidés dans le cadre du foyer, au niveau de la réflexion. Il y a eu d'autres situations, mais lui, vraiment, c'est quelqu'un qui nous a vraiment fait avancer. Alors, Xavier, il a 39 ans, il est célibataire. C'est quelqu'un qui, au sein du foyer, est très apprécié. Il est agréable, il aime rendre service. Vraiment, c'est quelqu'un d'apprécié. Il a eu un accident de voiture en 97 avec un TCC sévère et des contusions hémorragiques bifrontales et temporales droites. Il a vécu assez longtemps dans sa famille. Ses parents sont très présents, on a une bonne collaboration. Ils sont aussi très lucides. Donc, lorsque le foyer s'est ouvert, sa situation s'était un peu péjorée. Alors, il est rentré au foyer. Il a rejoint le foyer Valet de Cœur très rapidement après son ouverture. Lors de la présentation de la situation, le médecin neurologue qui le suivait, il a informé l'équipe en disant qu'il y avait eu des comportements exhibitionnistes dans son village, dans le café du village, au sortir des toilettes. Il y avait à ce moment-là que la serveuse, mais il nous avait informé que c'est des comportements qui pouvaient à nouveau survenir au sein du foyer. Alors, c'est vrai que peu de temps, quelques mois après son arrivée au foyer, Xavier a eu certains comportements. C'est les veilleuses qui ont commencé à nous en parler. Il y a eu aussi du personnel de l'intendance. Ces comportements ont surtout lieu le matin très tôt ou tard le soir, c'est-à-dire qu'il sort nu dans le couloir avec ou sans masturbation. Et au départ, c'est vrai que ça a réveillé beaucoup d'émotions. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on est confronté à un comportement sexuel, on est ramené aussi à notre histoire. Et pour certaines, c'est plus difficile d'être confronté à des comportements sexuels de ce type. Et on a commencé à sentir qu'il y avait aussi un sentiment d'insécurité dans le foyer. Mais il n'y avait pas de violence. Ces comportements étaient surtout des comportements vraiment pour se montrer exhibitionnistes. Donc, l'institution a décidé vraiment de mener une réflexion. Et la première étape de cette réflexion, c'était déjà de canaliser les informations pour éviter, quand on travaille dans une institution, très vite tout est diffusé, de dire mais vraiment à qui on parle lorsqu'il y a des comportements exhibitionnistes. Et là, c'était deux personnes, donc il y avait le responsable de l'accompagnement et moi-même, qui centralisions les informations. Et puis qui clarifions aussi les comportements, parce que parfois, il faut bien savoir qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Ensuite, on a aussi eu besoin de mieux connaître Xavier avant son AVC, parce que c'est vrai qu'il y a une grande rupture, il y a un changement, mais il y a quand même son histoire d'avant, il y a des choses qui restent. Moi, ce que je trouve quand on travaille avec des personnes cérébro-lésées, c'est des fois difficile de savoir qu'est-ce qui appartient à la personne d'avant et qu'est-ce qui est lié à la lésion. Donc, on a eu besoin un petit peu de mieux le connaître. On a parlé avec Xavier, on a rencontré ses parents aussi, il était d'accord, pour connaître un peu son histoire. Avant, il n'y avait jamais eu de comportement du tout sexuel inadéquat. Ensuite, on a aussi eu besoin de comprendre les conséquences possibles qui étaient liées à la lésion. Est-ce que ces comportements étaient liés à la lésion ? Et pour ça, on a aussi rencontré le neurologue et puis on a une étroite collaboration avec la neuropsychologue du foyer. Parce qu'avant de prendre des décisions, c'est important de comprendre aussi, je trouve. Donc là, on a eu vraiment, puis vous allez voir, on fait un travail important, on a eu des bonnes pistes aussi. Ensuite, on s'est aussi penché sur la médication, on en a aussi parlé ce matin, et puis avec le médecin neurologue aussi, parce que Xavier prend un médicament pour la maladie de Parkinson, qu'on appelle le Madopar, et qui peut avoir des influences sur les comportements sexuels, donc il a été supprimé pour essayer de voir si c'était la médication ou pas. Et puis surtout aussi, on a eu besoin de connaître les besoins de Monsieur X, de Xavier donc, de savoir un petit peu quels étaient ses besoins et de parler un petit peu avec lui. Alors, par rapport aux besoins, il y a juste une chose déjà qui est importante par rapport à Xavier, c'est qu'il a vraiment besoin de repères. C'est quelqu'un qui a beaucoup besoin de structure pour se sentir en sécurité. Il a des troubles mnésiques et attentionnels et exécutifs. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup aussi de difficultés à s'exprimer verbalement. Il a des difficultés et très sensible au bruit. Donc dès qu'il a un bruit, il réagit. Il a aussi une incapacité à ne pas réaliser un comportement. Lorsqu'il a une idée, il doit le réaliser. Il faut vraiment arriver au bon moment pour essayer de lui faire changer d'avis. Beaucoup de difficultés à prendre des décisions aussi. Au niveau des interprétations des comportements sociaux aussi, là, il rencontre des difficultés. Il ne comprenait pas qu'on pouvait être choqué, par exemple, de le voir nu dans le couloir au départ. Et au niveau des émotions, ses propres émotions aussi, il a des difficultés à les percevoir. C'est quelqu'un d'assez stable dans les émotions. Et dernièrement, justement, il me disait « Mais moi, je ne sens plus les émotions comme avant. » Donc ça, il a pu aussi l'exprimer. Et puis, difficulté à voir l'émotion sur le visage de l'autre. Donc si la personne le surprenait nu, il n'arrivait pas à décoder qu'elle pouvait être choquée, qu'elle pouvait être blessée. Ça, il n'arrive pas à le percevoir et à le voir. Et aussi une très basse estime de lui. Donc ça, c'est des aspects dont on a pris compte aussi après pour construire un projet avec lui. Alors, dans la deuxième étape, après avoir récolté toutes ces informations, on a dit maintenant, on va construire un petit peu des stratégies d'action pour aider Xavier. Alors, dans ces stratégies d'action, on a beaucoup collaboré avec Xavier, bien sûr, c'est la première personne avec qui on collabore, mais aussi avec sa famille, et puis les professionnels du réseau, le neurologue, la neuropsychologue. Et ce qu'on a mis en place, déjà dans un premier temps, c'est des entretiens hebdomadaires. Une fois par semaine, on passe un moment avec Xavier, une heure de temps, où on partage avec lui. Et là, ces personnes qui partagent avec lui, justement, c'est les personnes qui avaient été, pour centraliser l'information, c'est-à-dire le responsable de l'accompagnement et moi-même, pour déjà parler de la sexualité avec lui, oser mettre des mots, voir un petit peu où il en était au niveau de ses connaissances, et pour pouvoir aussi lui demander de quoi il avait besoin. Puis on a aussi pu mettre avec lui des repères. Comme je vous ai dit, Xavier, il a besoin de repères. Donc on a fait un journal de bord de nos entretiens. On a mis des règles sociales, pas beaucoup, il y en a trois, qu'il a signées, on les a construites ensemble. Ne pas sortir nu de sa chambre, enfin des choses toutes simples. Et puis ce journal de bord, c'est un petit peu le résumé de nos entretiens. On regarde avec lui ce qu'il a envie qu'on note, tout ce qu'on note. C'est un espace pour lui, il peut aussi parler de ses émotions, il peut parler de ce qu'il aime. Ou si tout à coup, il a besoin de parler de la sexualité, il parle de la sexualité aussi. Et donc, il les apprécie, ça fait 3 ans qu'on se voit une fois par semaine, et c'est des entretiens, je crois, qu'il apprécie beaucoup. On l'a aussi aidé avec des signaux visuels, parce que comme c'est quelqu'un qui, dès qu'il entend un bruit, il sort dans le couloir, donc avec des signaux pour espace privé, espace public, pour l'aider à se repérer aussi. Et puis, il a pu nous dire, justement, dans un de ses entretiens, si on parle de la sexualité, c'est qu'il avait des soucis par rapport à ses érections. Il trouvait qu'il n'avait pas des bonnes érections. Et donc, pour lui, se montrer nu, c'était montrer qu'il était un homme. On parlait de l'identité, hein, plus tard. Pour lui, c'était vraiment dire, mais comment je montre que je suis un homme ? C'était maladroit, mais c'est comme ça qu'il le montrait. Et c'est vrai que, bon, ça c'est une ancienne étude, mais il y a plusieurs études, je crois, qui vont dans cette direction. C'est qu'on constate qu'il y a 71% des hommes qui rapportent une réduction des érections. Hein. La première étude, c'était de Meyer en 1971. Donc, il a eu des contrôles médicaux où on n'a rien, enfin, les médecins n'ont rien détecté, mais en tout cas, lui, c'est ce qu'il constate. Donc, il a besoin aussi de vérifier. Xavier, c'est quelqu'un qui ne veut pas. On lui a eu proposé, hein, s'il voulait vraiment aller voir une prostituée ou une assistante sexuelle. Il n'en veut pas. Lui, ce qu'il veut, c'est une relation. Ça lui a été proposé plusieurs fois. Lui, ce qu'il veut, c'est une relation amicale, amoureuse. Il veut construire quelque chose. Donc, pour le moment, il refuse toujours ce type de sexualité. Et c'est là que c'est important. C'est comment pas projeter nos besoins à nous sur les besoins de l'autre. Toujours être distant, hein, en disant, mais vraiment, de quoi vraiment la personne, elle a besoin ? Puis de l'accompagner là-dedans. Il y a aussi tout un travail, parce que travailler avec Xavier, c'est important, mais il faut travailler avec tout l'entourage de Xavier. Et là, justement, il y a un travail important qui se fait par la neuropsychologue du foyer par rapport au personnel qui est confronté à ces comportements. Donc, c'était de savoir comment on répond au mieux à Xavier. Il y a une étude qui est en cours, justement, sur l'impact de la réponse donnée par la veilleuse sur la fréquence des comportements. Donc ça, c'est une étude qui est très intéressante. Donc dans un premier temps, donc c'était de relever la présence de Xavier, mais pas le comportement. Donc quand la veilleuse, elle est confrontée à un comportement, elle lui dit bonsoir Xavier, elle continue son chemin. Cette réponse a été testée durant 5 comportements inadéquats. Ensuite, la deuxième réponse, c'était de relever le comportement, mais pas la personne, pour voir hein, qu'est-ce qui a joué le mieux. C'était, quand elle le rencontrait, de dire « je suis mal à l'aise » et elle continuait son chemin. Parce qu'il a besoin d'attention hein, aussi. Cela aussi durant 5 comportements inadéquats. Et la troisième réponse, c'était de relever à la fois son comportement et sa présence, sa personne, je veux dire. C'était de dire, par exemple, Xavier, retourne dans ta chambre, tu ne peux pas être nu et te masturber dans le couloir. Alors, on n'a pas tous les résultats pour le moment, mais c'est vraiment en cours, mais c'est quelque chose de très important. Et on a pu quand même constater déjà, hein, dans un premier temps, une baisse de la fréquence des comportements. Et surtout, je crois, il y a un aspect qui est très important, c'est qu'il y a une meilleure gestion professionnelle de la situation. Tout ce qui est mis en place fait qu'on est moins dans l'émotion et c'est beaucoup mieux canalisé et c'est paisible, beaucoup plus paisible. Il y a moins de réactions fortes qui peuvent aussi influencer Xavier hein, quand on est beaucoup dans l'émotion. Après, donc, il y a le travail avec les veilleuses. Puis on s'est dit, mais il y a tous les professionnels du centre qui sont concernés par la sexualité et l'intimité dans le cadre du foyer. Donc, l'institution s'est vraiment positionnée en disant, mais il faut qu'on offre une formation aussi aux professionnels sur cette thématique. Et là, eh bien, il y a eu justement une formation qui a été organisée avec la collaboration des centres CIP, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y a aussi des professionnels formés par rapport au handicap et la sexualité. Avec vraiment, d'abord, il y a eu plus un apport théorique où on a parlé de la sexualité, mais de manière globale, intégrative, parce que souvent on pense sexualité et relations sexuelles, encore très souvent, mais c'est beaucoup plus large. Hein. La sexualité, ça touche bien sûr la biologie, hein, l'excitation sexuelle, les hormones, l'anatomie, physiologie, mais c'est aussi tous les aspects affectifs, émotionnels. Ça touche aussi les aspects sociaux, les normes, les règles. Et actuellement aussi, ils sont comme tout le monde, on est influencé beaucoup par les médias hein, aussi, le pouvoir des médias. Il y a tous les aspects éthiques aussi, hein, les valeurs, la morale, les croyances. Donc parler de sexualité, c'est parler de tout ça. C'est pas juste de parler de la génitalité. Donc on a pu vraiment réfléchir là autour puis de voir vraiment cette sexualité, ça a aussi été abordé ce matin, comme vraiment un processus d'apprentissage. La sexualité, elle nous accompagne toute la vie, hein, de la naissance à la mort. Donc on a tous un bagage, hein, on n'a pas du tout la même valise, je pense, personne dans cette salle n'a la même valise, mais on a fait des apprentissages, si on regarde la sexualité au niveau large. Et donc, les personnes cérébralisées, elles ont cette valise, hein, elles ont ce bagage, mais tout à coup, elles ne trouvent plus les clés, des fois, pour ouvrir. Et il faut être créatif aussi, pour pouvoir de nouveau peut-être se sentir bien en tant qu'homme, en tant que femme et dans leur sexualité. Et de découvrir leurs besoins aussi. Donc, on a vraiment cette notion d'apprentissage qui est importante. Il y a une deuxième partie de la formation qui s'est vraiment basée sur les ateliers plutôt. On a fait des petits groupes de professionnels où là, les gens pouvaient vraiment s'exprimer sur les représentations, hein, qu'on a de la sexualité des résidents et de ne pas confondre, vraiment faire ce travail de ne pas confondre mes besoins avec les besoins de l'autre. Il y a une personne qui a pu dire « Mais moi, je ne comprends pas qu'on ne peut pas avoir de relations sexuelles pendant 10 mois, par exemple. » Pour elle, c'était inconcevable, mais d'autres personnes peuvent très bien vivre sans relation sexuelle et être heureuses. Hein, donc, de faire cette distinction entre moi et l'autre. Ensuite, elles ont pu aussi exprimer leur vécu au quotidien, parce que ce n'est pas toujours facile, surtout au niveau du personnel des soins. Parce qu'on entre vraiment, nous, on a des infirmiers, infirmières, assistantes en soins, ils rentrent dans l'intimité vraiment de la personne. Et parfois, ils sont confrontés à des gestes, des comportements, un langage vulgaire. Et ce n'est pas facile à gérer. Donc là, les personnes ont pu exprimer. Et une personne a même pu dire, mais je n'avais jamais osé le dire, ce que je vivais, et là, j'ai pu le dire. Et ce qui est ressorti de cette formation, c'est deux grands besoins. D'abord, le premier besoin, c'était qu'au sein du foyer, d'avoir des personnes ressources. Des personnes chez qui on pouvait s'adresser, où on pouvait aller si on était confronté à un questionnement, une situation, mais qui soient aussi des personnes ressources pour les résidents, et puis qu'ils soient aussi pour les familles des personnes ressources, parce qu'on oublie des fois les familles, mais ils ne disent rien, ou le conjoint. Le conjoint, on parlait des couples. Hein. J'avais une fois été à l'association Fragile, où la femme disait, mais je ne reconnais plus mon mari, il est devenu fétichiste, par exemple. Et c'était dur pour elle. Donc comment on peut aussi donner un espace aux familles? Nous, c'est toujours notre souci aussi. Donc ça, c'était le premier besoin. Personnes ressources. Deuxième besoin, c'était de clarifier le cadre institutionnel. C'est de dire au niveau de l'institution quelles sont nos valeurs pour qu'on ait aussi un peu tous le même discours. Parce que sinon, on va tous fonctionner avec nos valeurs personnelles et ça va même induire de l'incohérence au niveau des résidents encore plus parce qu'ils vont avoir des messages très différents. Par rapport, je vous ai parlé qu'il y avait aussi du personnel de l'intendance hein, qui avait été confronté à des comportements. Il y a aussi un colloque qui a été organisé pour elles, pour ces personnes, pour le personnel de la cuisine aussi. Pour vraiment parler de ces questions-là. Donc, on en est à la création de la commission affectivité-sexualité qui vient de se créer, quoi, qui commence, où là, on a des membres de la commission qui représentent les trois secteurs, l'accompagnement, les soins et les ateliers. Alors, le rôle des membres de la commission, c'est d'élaborer une charte institutionnelle sur le thème de l'affectivité et de la sexualité, donc une ligne institutionnelle. C'est aussi d'être des personnes ressources, justement, au sein du foyer. Mais on a associé les trois foyers. Hein, donc, il y aura aussi des personnes dans les autres foyers. D'être donc des personnes ressources pour le personnel, les résidents et les familles. Et puis, une collaboration avec le réseau extérieur. Donc, on garde vraiment cette collaboration. On va aller avec les centres CIP, avec le CEP aussi, au fil des besoins. On a des résidents qui ont des consultations dans les centres CIP. C'est gratuit et confidentiel. Donc, ils peuvent accéder aussi à ces prestations extérieures. Et puis, on a aussi le souci que cette charte, qui est en élaboration en ce moment, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup, beaucoup, mais qu'elle soit vivante. C'est-à-dire qu'on va vraiment l'améliorer, la développer au fil des besoins qu'on va découvrir. Donc, voilà, la charte, ce sera un cadre éthique, ce sera un cadre juridique. C'est aussi un guide d'accompagnement à l'usage des professionnels par rapport à des situations concrètes, la vie du couple dans l'institution, l'homosexualité, enfin des règles, des thématiques très concrètes où on aura un petit peu tous la même ligne. Parce que le risque, souvent, si c'est qu'une ou deux personnes qui portent un projet, c'est que le jour où ils ne sont plus là, ben voilà, tout tombe à l'eau. Donc, il faut que ça perdure, tout ça. Alors, je vais arriver gentiment au bout. Donc, je voulais terminer en disant que c'est vrai que le langage affectif et sexuel, c'est vraiment le plus fort qu'un être humain puisse employer, mais c'est aussi le plus difficile à gérer. Alors, pour quelqu'un qui a été victime d'une lésion cérébrale, il y a déjà tellement d'autres difficultés à gérer, et là, c'est vraiment quelque chose de très complexe, mais je pense que c'est important de leur donner la parole. C'est ce qui se fait aujourd'hui, et puis c'était vraiment important, je pense, et ce matin, ça m'a beaucoup touchée. Alors moi, je suis un résident à domicile, il s'appelle Yves, depuis 2 ans. On a vécu une séparation dans le cadre du foyer, j'ai accompagné le couple qui s'est séparé, j'ai vu ses enfants qui sont de jeunes adultes, mais il m'a dit une phrase tellement belle l'autre jour que je voulais vous la partager. Il m'a dit « Je dois apprendre à vivre avec le nouveau Yves ». Et après un petit peu de réflexion, moi qui venais de voir ses enfants, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tes enfants, ils doivent aussi apprendre à vivre avec leur nouveau papa ?» Puis il m'a regardé et il m'a dit « Oui, tu as raison ». Et je pense que c'est des beaux messages qui nous donnent vraiment beaucoup de force pour continuer. Voilà, j'ai tenu le temps, je crois. Je vous remercie beaucoup. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, le temps est compté.
Nous vous remercions pour avoir remis en relief la dimension à la fois de la sexualité, mais de l'affectivité, à savoir que les sujets sont avant tout en demande de soutien, d'accompagnement affectif dans la vie, comme nous tous. C'est un point important qui a été resoulevé. Alors, est-ce qu'il y a une question ? Oui ?
En tout cas, déjà, excusez Jean-Luc Truel, qui n'est pas avec nous ici aujourd'hui parce qu'il est à un autre congrès, mais qui aurait sûrement réagi aussi en disant qu'en fait, Jean-Luc, il m'a toujours dit, tu sais, travailler avec la lésion cérébrale, c'est un monde de femmes au service des hommes. Et ça, j'ai pensé à ça quand vous faisiez votre exposé, parce qu'en fait, on a à peu près 2/3 de bénéficiaires masculins pour 1/3 de féminins, mais on est surtout des femmes à aider cette majorité d'hommes. Et donc, je me disais, il y a aussi, pour ces hommes qu'on aide, être encadré par une kyrielle d'armée féminine, ça éveille aussi pas mal de choses. C'est quand vous parliez de la veilleuse et peut-être de ses émotions face à ce qu'elle pouvait ressentir dans l'hébergement. Voilà.
Donc c'est pour ça que dans l'accompagnement, on est homme et femme, et il a le droit à des entretiens avec un homme et une femme. On avait vraiment ce souci-là qu'il puisse rencontrer aussi un homme et une femme. Il a les deux.
Moi, c'était par rapport à la charte. Vous demandez comment vous avez pensé la mettre en place. Est-ce que vous intégrez tout le personnel aussi ou...
Alors non, on va justement, les personnes qui font partie de cette commission, c'est ces personnes-là, mais qui sont représentatives des 3 secteurs d'activité, soins, accompagnement et ateliers. Il y a des représentants et c'est ces personnes-là qui se réunissent avec le responsable du foyer pour créer une charte qui va ensuite être présentée à la direction. Et on a le souci, nous, les représentants dans la commission, de consulter nos collègues par rapport aussi aux besoins qu'ils ont. Ouais. Merci.
Très bien. Donc, merci beaucoup.